France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille Serge Corbert, cinéaste connu du grand public pour L'Homme Orchestre avec Louis de Funès ou Un idiot à Paris avec Jean Lefebvre. Mais Corbert fut aussi l'ami proche de Rissé Barrier ou Bobby Lapointe à leur début au Cheval d'Or, l'assistant de Guy Debord, le copain de Jean-Louis Trintignant, le complice d'Alain Goraguer et d'autres encore qu'on retrouvera en musique dans quelques minutes. Le temps de nous échauffer avec cette chanson d'Irvin Berlin, « Je voudrais être chef d'orchestre ».
Rather lead a band. If I could be a politician with a chance to dictate, I would say, let it wait, I'd rather lead a band. My every care ceases, I'm rich as old Croesus, when I've got 10 pieces in hand. If I could have a millionaire with a whole block of banks, I would just whisper thanks, I'd rather lead a band.
Et cette jolie voix de chanteur de jazz ténorisant, c'était celle de Stuart Allen avec l'orchestre Ritz-Carlton de Richard Himber, un enregistrement de 1936 dans cette chanson du grand Irvin Berlin, I'd rather lead a band. Il paraît d'ailleurs que la petite fille d'Irvin Berlin habite Paris, alors j'espère bien que j'aurai l'occasion de la recevoir un de ces jours pour évoquer la fabuleuse carrière de son grand-père.
Thank you.
Quelle petite merveille que cet intermezzo pour deux pianos de la grande Germaine Taillefer, musicienne que je n'en finis pas de découvrir et de redécouvrir avec enchantement, elle qui fut la protégée de Satie et de Cocteau, qui fut aussi l'amie intime de Charlie Chaplin et qui termina professeur de piano à l'école alsacienne avant de mourir en 1983, dernière du groupe des Six quelques mois après Georges Auric. Cet extrait d'un disque justement de la musique à quatre mains et à deux pianos de Germaine Taillefer par Clinton et Narboni, Mark Clinton et Nicole Narboni, un très beau disque que je ne saurais que vous recommander aux éditions Élan Recording.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais sans plus attendre, nous allons retrouver mon invité que vous connaissez par L'Homme Orchestre ou Sur un arbre perché avec Louis de Funès, mais il fut aussi un des animateurs du cabaret Le Cheval d'Or à la Contrescarpe où il a vu débuter tous ses amis, Rissé, Barrier, Bobby Lapointe. Il était aussi ami de Jacques Brel et de beaucoup d'autres qu'on va évoquer tous ensemble en musique dans quelques instants, donc avec Serge Corbert.
Notre amour est un bateau qui vogue sur les vagues.
Je connais à Macao un bistrot formidable.
Notre amour fera parler jusqu'à la fin du monde.
C'est bon d'aller bourlinguer sur les vieux quais de Londres.
J'irai décrocher la lune pour la mettre à l'étoile.
Je détruirai les parkings pour faire des cathédrales.
Vive la révolution, salut et mort aux vaches.
Je voudrais chanter la messe en ré à Saint-Eustache.
Quand on aura plus 20 ans, on aura les cheveux un peu gris. On s'aimera encore mieux, on sera plus heureux qu'aujourd'hui. Quand on aura plus 20 ans, dans 30 ou 40 ans environ, on aura 14 enfants, des bleus, des noirs, des blancs et des blonds.
Tu seras mon mandarin, je serai ta mandarine.
Je ne mettrai plus jamais les pieds dans la marine.
Tu seras mon barbe bleue et je serai tes femmes.
Si vous m'appelez monsieur, je vous dirai madame.
Tu t'enrhumes pour un rien, n'oublie pas tes réglisses.
J'ai 62 coffres-forts dans une banque en Suisse.
Je tricoterai pour toi le soir à la chandelle.
Un jour j'organiserai la fête universelle. Quand on aura un living, je te ferai un beau réveillon. J'inviterai les voisins et l'on jouera de l'accordéon. Et tu me feras valser même si tu sais pas, ça fait rien. Et ma tête tournera, tout ira ce soir-là très très bien.
Notre amour est un bateau qui vogue sur les
vagues. Je connais à Macao un bistrot formidable.
La jolie chanson. Bonjour Serge Corbert.
Bonjour.
Ça, c'est la chanson d'un de vos films qui s'appelait Ursule et Grelu en 1974. Et les voix qu'on entendait, c'était Annie Girardot et Bernard Fresson. Vous vous rappelez l'enregistrement de cette musique et ce film, bien sûr, Serge Corbert.
Oui, oui. C'est mon meilleur film.
Et c'est pas le plus connu.
Mais c'est mon meilleur
film. Ah, vous l'affirmez carrément.
Non. Absolument.
Donc c'était bien pour commencer.
Oui, que ça réunit deux grands rêves. C'est un grand rêve dadaïste et surréaliste, ce film. C'est un film fou, quoi.
Ouais, une comédie. Hein.
C'est une comédie, oui. C'est une comédie, j'espère qu'on arrivera à la ressortir parce que c'est un film assez rare qu'on ne voit plus.
Et c'était donc ce duo d'acteurs, hein, Annie Girardot-Bernard Fresson, qui était déjà d'ailleurs dans un film précédent, pas du tout une comédie, alors les Feux de la Chandeleur.
Hein. Non, là c'était un film dramatique.
Voilà.
un film avec lequel nous avons représenté la France à Cannes,
voilà,
en 70-71.
Enfin, ce sont deux acteurs qui ont donc été proches de vous, Girardot et Fresson.
Très, 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 très. J'ai connu Fresson avant Girardot. Et le couple a été absolument formidable et on s'est bien amusé, oui.
Et vous avez donc cette musique, alors il faut quand même signaler, hein, cette belle chanson, elle est signée Alain Goraguer pour la musique. Alain Goraguer, complice de beaucoup d'aventures.
Oh là là, oui, de beaucoup de films, de mes débuts.
Ouais.
Et puis avant moi, forcément, le compositeur de Boris Vian et le bien pianiste sûr. De Boris Vian.
Vous vous êtes rencontrés par le cinéma avec Goraguer?
Grâce à un ami de Goraguer, et vraiment ça a été le coup de foudre.
Le coup de foudre, et on le retrouvera, on va le voir dans beaucoup de vos films. Et puis les paroles de cette chanson.
Pierre Delanoë.
Voilà, pas mal non plus.
Voilà, là aussi, on reparlera de son complice, Claude Lemel, un peu plus tard.
Voilà, en tout cas, Serge Corbert, il faut dire que cette chanson, même si le film est oublié aujourd'hui, et c'est dommage, elle a ressurgi, elle est quand même entrée dans certaines mémoires, puisque je crois qu'elle a été chantée par deux autres comédiens au vœu du Centre National du Cinéma en 2019.
Oui, oui, elle a été rechantée en 2019, et aussi à la SACEM.
Et aussi à la SACEM.
Oui, la SACEM, c'était pour l'anniversaire d'Anne Sylvestre.
Ah, la regrettée Anne Sylvestre.
Voilà.
Voilà. En tout cas, merci d'être avec nous, Serge Corbert. Vous étiez déjà venu pour évoquer les cabarets de la Contrescarpe, dont on va reparler aujourd'hui. Mais quand je vois tout ce que vous avez fait, je suis un peu fasciné. On dirait que vous avez un besoin d'agir, de produire, de tourner dans tous les genres. Vous avez fait de la télévision, du cinéma, des documentaires, mais vous vous êtes jamais arrêté finalement.
J'ai beaucoup travaillé. Oui. Et pas seulement au cinéma, au musical, au cabaret, oui. Beaucoup de choses, oui.
Voilà, et on va commencer peut-être par remonter Serge Corbert dans vos très jeunes années, associé à des bons souvenirs et à des moins bons. On va le voir avec ces deux petits extraits musicaux qui vont s'enchaîner. Je recommande aux auditeurs de bien prêter l'oreille.
La chérie du bataillon, c'est la jolie petite Margoton. Et chacun lui fait la cour, oui mais c'est bien en vain qu'on tourne autour. C'est pour cela que les soldats chantent pour elle à l'unisson cette chanson. Margoton dit toujours non, mais nous l'aimons, nous les troufions, car elle est si belle. L'adjudant veut la pincer, le commandant veut l'embrasser, affolé par elle. Le sergent, nuit et jour, pousse des soupirs d'amour. Le colon, rajeuni, fait des yeux de merlan frit. Margoton dit toujours non, malgré tout, nous l'adorons.
Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Lutter sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse du héros de Verdun. En nous donnant ta vie, ton génie et ta foi, tu sauves la patrie une seconde fois.
Voilà, on va arrêter là le maréchal, parce que c'est une chanson dont on peut se passer, Serge Corbert.
Oui, on peut l'oublier même.
On peut l'oublier, mais sauf que vous ne l'oubliez pas, parce que d'abord, on va revenir sur le petit montage qu'on vient d'entendre, mais d'abord, vous êtes né à Paris, d'une famille juive installée en France, et pendant la guerre, vous vous êtes caché comme beaucoup d'autres, vous avez été caché au Chambon-sur-Lignon.
Oui, j'ai pas eu vraiment l'occasion de chanter maréchal, nous voilà à l'école, parce que je ne suis pas allé à l'école, j'étais caché parmi de nombreux enfants juifs au Chambon-sur-Lignon. Voilà, j'ai passé la guerre, une partie de la guerre là. Ça s'est tout à fait bien passé d'ailleurs.
Vos parents à ce moment-là, eux-mêmes ?
Mes parents étaient réfugiés à Montauban.
À Montauban.
Et en 42, lorsque les Allemands ont passé la ligne de démarcation, ils ont eu très peur et ils ont un peu dispatché la famille. Donc moi, je me suis retrouvé au Chambon-sur-Lignon.
Voilà, et c'est là que vous avez terminé la guerre, si je puis dire, avec d'autres enfants. Non, on n'entendait pas donc Maréchal Nouvala au Chambon-sur-Lignon. Non, vous ne faisiez pas chanter les chants maréchalistes.
Non, surtout pas.
Quand même pas.
Non, et les villageois qui étaient tous protestants ne chantaient pas ça du tout.
Voilà, parce qu'ils étaient vraiment consciemment et délibérément vos protecteurs.
Hein. Ah, tout à fait.
Voilà, c'est ça.
Ils étaient merveilleux.
Et vous avez retrouvé vos parents, donc...
Voilà, tout de suite...
tout de suite à la Libération.
À la Libération.
Voilà, et vous êtes rentré à Paris. Alors là, évidemment, les auditeurs à qui j'ai demandé de prêter l'attention ont entendu « Maréchal, nous voilà ». Et puis juste avant, une autre chanson avec exactement la même mélodie qui s'appelle « La Margoton du bataillon » et qui fut composée par Casimir Oberfeld, dont j'ai souvent parlé dans cette émission, et auquel vous avez consacré un documentaire, parce qu'il y a toute une histoire entre ces deux chansons.
Absolument, le documentaire n'est pas totalement terminé. Mais oui, Casimir Oberfeld, on lui a volé sa musique. C'est un comble hein, pour faire...
Pour lui qui était juif, justement.
Pour lui qui était juif et qui est...
Et qui est mort à Auschwitz,
mort à Auschwitz, presque, Auschwitz. Oui. On lui a volé sa musique pour faire Maréchal Nous Voilà.
Voilà, c'est ça.
Et donc, ce Casimir Oberfeld a écrit de merveilleuses chansons pour Mistinguette, pour Joséphine Baker, pour Maurice Chevalier, et surtout pour Fernandel.
Bien
et
sûr.
On se souvient encore, parce que cette chanson est restée dans les mémoires, Félicie aussi.
Ben voilà, parmi les nombreux tubes d'Oberfeld, et donc chansons volées, chansons spoliées, on
Absolument.
Peut dire, pendant la guerre, pour faire « Maréchal, nous voilà ». Après la guerre, donc vous rentrez à Paris, vous avez à peine 10 ans. Hein.
Oui.
Mais vous allez très vite, j'ai envie de dire, voler de vos propres ailes, Serge Corbert, dans ce Paris de l'après-guerre.
Oui, parce que je suis allé peu à l'école, parce que après le certificat d'études à 14 ans, j'ai dû travailler. Ouais. Parce qu'on est une famille prolétaire et il fallait bosser pour nourrir la famille. Donc j'ai commencé à travailler comme tapissier.
Tapissier.
Voilà.
Mais qu'est-ce qui vous a conduit vers le monde des arts, alors ?
Ben, la littérature. Heureusement, j'avais une bande de copains qui lisaient et qui m'ont fait lire. Et le premier livre, c'était un livre d'Henri Müller, bizarrement. Ouais, ouais. Max et les phagocytes. Et ça a été une révélation. Et je n'ai pas arrêté de lire.
Et alors, vous avez eu envie de connaître aussi le monde à travers la chanson, les cabarets, parce que vous avez écouté assez jeune, bah, justement, les chanteurs poétiques de l'époque, c'est lié à votre amour de la littérature, Mouloudji, Montero, etc.
Oui, parce que après guerre, on était tous plus ou moins communistes.
Oui.
Et moi, à l'âge de 16 ans, j'ai fait partie des jeunesses communistes et on lisait dans ces milieux-là. On lisait beaucoup. On parlait littérature. Et ça a été pour moi un bien formidable. Il y a eu ça, et puis il y a eu aussi un organisme qui s'appelait Hort et qui s'occupait des enfants juifs après la guerre. J'étais apprenti tapissier, et ils m'ont placé à l'école Boulle pour apprendre l'histoire de l'art. Et tout ça m'a ouvert à beaucoup de choses, m'a ouvert beaucoup de portes.
Et les chansons de Macorlan, elles sont arrivées comment alors ?
Pendant la période jeunesse communiste, forcément, Montero, Macorlan, Carco.
C'est ce qu'on écoutait dans ces groupes.
Absolument.
Ouais. Mouloudji, donc, aussi.
Mouloudji, bien sûr. Ouais. Bien sûr, et puis tout ce qui se passait autour de Jacques Prévert.
Et là, on va écouter, je crois que c'est une chanson que vous aimez beaucoup, c'est Germaine Montero, la grande Germaine Montero. J'imagine que vous l'avez vue, mais peut-être plus tard.
Je l'ai vue plus tard, oui.
Oui, c'est ça. Oui,
oui absolument. C'est quelqu'un de formidable.
Et c'est La Fille de Londres, accompagnée par l'orchestre de Philippe Gérard.
Un rat est venu dans ma chambre, il a rongé la souricière. Il a arrêté la pendule et renversé le pot à bière. Je l'ai pris entre mes bras blancs, il était chaud comme un enfant. Je l'ai bercé bien tendrement, et je lui chantais doucement. Dors mon rat, mon flic, dors mon vieux Bobby. Ne siffle pas sur les quais endormis. Quand je tiendrai la main de mon chéri. Un chinois est sorti de l'ombre. Un chinois a regardé Londres. Sa casquette était de marine, ornée d'une encre coralline. Devant la porte de Charlie, à peine Finch lui a souri. Dans le silence de la nuit, en chuchotant, je lui ai dit: je voudrais, je ne sais trop quoi. Je voudrais ne plus entendre ma voix. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. Sur son maillot de laine bleue, on pouvait lire en lettres rondes le nom d'une vieille compagnie qui, paraît-il, fait le tour du monde. Nous sommes entrés chez Charlie, à peine et fin loin des soucis. Et j'ai dansé toute la nuit avec mon chin-toc ébloui. Et chez Charlie, il faisait jour et chaud. Des jouets, des ibelles sur son vieux piano. Un piano avec des dents de chameau. J'ai conduit le chinois dans ma chambre. Il a mis le rat à la porte. Il a remonté la pendule. Il a rempli le pot à bière. Je l'ai pris dans mes bras tremblants pour le bercer comme un enfant. Il s'est endormi sur le dos. Alors je lui ai pris son couteau. C'était un couteau perfide et glacé. Un sale couteau rouge de vérité. Un sale couteau rouge sans spécialité.
Germaine Montero dans une chanson de Macorlan, c'est magnifique, ah, Serge Corbert. Merci pour ce choix qui nous ramène donc à vos 15-16 ans, on est au tout début des années 50, vous êtes tapissier, apprenti tapissier à Paris, vous habitez avec votre famille, déjà rue du Fer à Moulin, dans le 5e arrondissement.
J'ai appris que Goscinny habitait là aussi.
Aussi.
Oui.
Mais c'est pas un quartier, comme on dirait, bobo à l'époque.
Ah hein. Non, c'était prolo à l'époque. Il y a tout près, il y avait un bal dans rue de Valence, en bas de l'avenue des Gobelins, et ce bal était très très mal fréquenté. On parle de violence en ce moment, mais là, l'orchestre...
Ça existait déjà?
Ben, l'orchestre était dans une cage, parce qu'il y avait des bagarres tout le temps, et on s'envoyait des bouteilles et tout ça, et forcément, l'orchestre était dans une prison, quoi.
Ah oui, donc vous grandissez dans ce Paris...
Oui, mais il ne fallait pas aller au-delà de la place d'Italie, parce qu'on risquait sa vie.
Ah oui, vraiment?
Absolument.
Ah oui.
Absolument.
Alors c'est vraiment le Paris en noir et blanc de certains films donc dans lequel vous grandissez, mais sauf que voilà, vous aimez la littérature, vous écrivez les chansons, et puis il vous suffit en somme de monter un peu la rue Mouffetard.
Absolument.
Pour arriver dans un quartier qui est déjà un quartier de cabaret à ce moment-là.
Voilà, moi j'ai fait le contraire, j'ai pas monté l'avenue des Gobelins pour passer la place d'Italie. Je suis parti dans l'autre sens, rue Mouffetard, vers la place de la Contrescarpe.
Et c'est déjà à ce moment-là le haut lieu du cabaret à Paris,
à partir de la place de la Contrescarpe. Oui, parce qu'il y avait une colonie américaine. Il y avait beaucoup de peintres américains à place de la Contrescarpe. Il y avait un hôtel qui s'appelait l'Hôtel des Sports. D'ailleurs, dans un américain à Paris, de Gershwin, il y a la place de la Contrescarpe et l'hôtel.
Ah oui, dans le film alors.
Dans le film, ah, oui. Dans le film de Kelly, oui. Ouais.
Et donc vous vous retrouvez là, tout près donc, de ce monde artistique et étudiant, bohème, tout ça un peu mélangé.
Tout à fait.
Et vous allez donc être très étroitement associé à l'histoire d'un de ces cabarets qui est donc le Cheval d'Or. Vous pouvez nous rappeler un peu comment vous vous retrouvez là-bas
et On se retrouvait les copains comme ça. Il y avait un bistrot qui s'appelait La Chope, qui n'existe plus maintenant.
Ouais.
Et on passait les journées là. On passait nos journées à discuter. Et puis un jour, un des copains a hérité d'une bonneterie rue Descartes. Et il se demandait ce qu'il allait faire de cette bonneterie. On était tous. Il y avait beaucoup de jeunes auteurs-compositeurs qui arrivaient de Sète et de Montpellier. Et on lui a dit, mais écoute, on peut essayer de monter un cabaret. C'était la bonne époque du cabaret Rive Gauche. Et il a accepté. On a vidé la boutique. Moi, qui étais tapissier, j'ai fait les sièges et les rideaux de scène.
Ouais.
Et nous avons commencé là à travailler tous dans ce cabaret. Et on a fait les débuts, vraiment les débuts de Raymond DeVos, de Pierre Richard, de Victor Lanoux, même d'Anne Sylvestre, de gens comme ça, quoi.
Mais de penser que vous qui êtes là avec moi aujourd'hui, Serge Corbert, vous avez assisté au début de Raymond DeVos, qui est d'une génération précédente, mais vous étiez un tout jeune homme lancé dans l'aventure.
Moi, j'avais 18 ans, quoi.
Voilà. Et donc, le Cheval d'Or, c'est vraiment un lieu mythique. On lui avait d'ailleurs consacré une émission ici avec Gilles Tchernia, qui est le fils du fondateur.
Hein, oui, tout à fait, du grand Tchernia, qui est un copain. C'est lui qui avait hérité de la bonneterie.
Voilà. Et c'est là, notamment, que vont débuter beaucoup d'artistes célèbres, plutôt d'ailleurs dans le genre souvent fantaisiste, hein, au Cheval d'Or. C'est un endroit où on aime bien la chanson d'humour.
Oui, la chanson d'humour. Il n'y avait que les auteurs, compositeurs, interprètes qui étaient acceptés.
Ah oui.
Sinon, on n'avait pas d'interprète seulement. Il fallait tout faire.
Et l'un d'eux va être très proche de vous. Il y en a d'autres, bien sûr, mais d'abord, Rissé Barrier.
C'est devenu tout de suite un ami et je l'ai suivi partout. On a, dans ses tournées, je travaillais avec lui. J'ai vraiment commencé à travailler la scène avec Rissé Barrier. Oui.
Vous faisiez quoi précisément?
Je faisais l'éclairage. Et les choses comme ça, quoi.
Vous mettiez en place le spectacle,
voilà.
Quoi.
Et au Cheval d'Or, je faisais partie du petit comité de sélection pour les chanteurs. On faisait passer les auditions.
Il était aussi sympathique qu'il en avait l'air.
Oh, il était formidable.
Il était formidable.
Ah oui, magnifique.
Avec
drôle,
son complice, Le Loup, déjà.
Il y avait Le Loup qui écrivait ses paroles.
Ouais.
Et il y avait une très, très, très bonne équipe. Mais Le Loup n'était pas trop avec nous, parce que c'était déjà un vieux monsieur, il devait avoir une quarantaine d'années.
Ah
quoi.
Oui, oh là.
Chaque soir, tu faisais ton numéro au son du banjo, avec un sautoir pour tout habiller à la sortie. Des messieurs gantés de blanc t'attendaient et en piétinant, tu ne les regardais même pas, tu partais seul. À petits pas, dolly, blonde poupée des folies, dolly, élégante et jolie, sur les planches à Deauville pendant le week-end, tu faisais faire ton portrait par Van Dongen. Dolly, sûrement t'as raté ta vie quand un marquis te proposait son blason, tu disais toujours non, 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 toujours non. Sous ton chapeau cloche de chez Lewis après le tennis, roulant dans ton torpedo voisin à plus de 80, où courais-tu si vivement, toi qui n'avais pas d'amant, voir les modèles de Poiret, entendre Vienner et Doucet. Dolly, blonde poupée des folies, dolly, élégante et jolie. Tout Paris t'admirait dans le Black Bottom, quand sur scène tu le dansais avec ma pomme. Dolly, sûrement t'as raté ta vie quand un marquis te proposait son blason, tu disais toujours non, 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 toujours non. Le temps a passé et l'on t'a dit au revoir et merci. Toujours seul, tu continues ta vie dans une mercerie. Parfois un admirateur te demande avec ferveur: montrez-moi le grain de beauté qui fit courir le monde entier. Dolly, Dolly, fini, fini les folies. Dolly, Dolly, tu as des cheveux gris. Bien souvent, les journaux viennent te demander quel était le secret de ton passé. Dolly, Dolly, le grand secret de ta vie, c'est un homme que tu n'as aimé qu'en photo. Le seul, l'unique, Rudolf Valentino.
Dolly 25 par Rissé Barrier, un des grands copains de mon invité Serge Corbert, à la fin des années 50, au Cheval d'Or, place de la Contrescarpe à Paris. Si je comprends bien d'ailleurs, Serge Corbert, vous n'étiez donc plus tapissier si vous passiez toutes vos nuits là-bas.
Non, 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 je gagnais 5 francs par jour.
C'était bien, 5 francs d'or, par jour
5, non, c'était rien.
C'était rien, non, d'accord.
Mais on était nourris au Cheval.
Ah, vous étiez...
Oui, oui, Madame Tchernia nous faisait à manger le soir, oui.
Ah oui, donc vous passiez votre vie là-bas,
donc,
en fait.
Absolument. Entre la shop de la Contrescarpe où on dépensait les 5 francs en café, on allait dîner ensuite au Cheval d'Or, oui.
Et vos parents, ils voyaient ça d'un bon oeil? Vous étiez encore tout jeune.
Oui, mes parents étaient formidables. Ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Ils ont vu tout ça d'un bon oeil. Je leur dois un peu tout ça, quoi.
Alors, quand vous étiez venu déjà dans cette émission, Serge Corbert, vous étiez en compagnie de Michel Bernstein, qui elle-même, à l'époque, tenait un autre cabaret, La Méthode, un petit peu plus
tout
bas, rue Descartes, mais qui était aussi une des figures de ce qu'allait devenir l'international situationniste et la compagne, l'épouse même à l'époque de Guy Debord.
Oui.
Et vous-même, donc, vous vous êtes retrouvé finalement assistant de Guy Debord pour un de ses films aujourd'hui presque légendaires, on pourrait le dire. Il vous a proposé de travailler avec lui parce que vous l'avez rencontré dans un de ses cabarets.
Oui, oui, je l'ai rencontré à La Méthode.
À La Méthode.
Oui, je suivais un petit peu un autre artiste qui s'appelle toujours, bien sûr, Romain Bouteille.
Oui.
Et qui passait à La Méthode.
Ah, voilà.
J'allais voir Romain et j'ai rencontré Guy Debord et Michel Bernstein, là, dans ce cabaret. On est devenus amis et comme moi, je m'intéressais énormément au cinéma.
Vous n'en aviez pas en fait du tout encore?
Non, 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 non. J'allais beaucoup, beaucoup à la Cinémathèque,
ah, oui,
qui était tout près du Cheval d'Or, puisque c'était rue d'Ulm.
Ah, c'était rue d'Ulm.
Oui, oui, absolument. Donc, je passais mes soirées entre le Cheval d'Or et la Cinémathèque. Donc, on a parlé cinéma avec Guy Debord et on a commencé ensemble sur une chose absolument délirante. On a fait le premier film en noir et blanc ensemble, que très peu de gens connaissent. On a fait un film qui était fait d'images noires et d'images blanches. Il y avait 10 minutes de noir, 5 minutes de blanc. La bande-son du film, Guy Debord lisait d'une voix monotone et monocorde le Code civil. Ce qui est un film absolument très, très emmerdant. Et nous avons fait une grande projection du premier film en noir et blanc aux Sociétés Savantes, qui était plein de monde, c'était bourré. Et au bout d'un quart d'heure, les gens n'en pouvaient plus. Ils ont failli se battre. Ils ont envoyé le projectionniste s'était enfermé dans la cabine pour pas qu'on arrête le film. Enfin, ça a été un petit scandale. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Parce qu'on était dans une... Là, on était chez... Marcel Duchamp.
C'est quoi. Ça. Et donc, vous êtes toujours en compagnie de Guy Debord pour un film peut-être un peu plus connu des spécialistes, qui est sur le passage de quelques personnes à travers une courte unité de temps.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Là, j'étais son assistant. L'idée de Guy Debord, c'était de tourner le dos au monument parisien.
Ah,
donc
oui,
la caméra tournait le dos, c'était aussi bête que ça. Mais c'était formidable aussi.
Mais il était comment dans vos relations à ce moment-là, avant de se fâcher, parce qu'il finissait toujours par se fâcher, Guy Debord, mais c'était pas encore un gourou comme il est presque devenu par la suite. Mais
non, 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 c'était quelqu'un de très détendu, avec beaucoup d'humour, aidé par Michel Bernstein, qui était drôle. On a fait un trio tout à fait... détendu et marrant, quoi. On était en plein surréalisme.
Voilà. Jusqu'à ce qu'il se fâche.
Oui. On s'est fâché, je crois, au bout de 3 ans. Ça a duré 3 ans, nos amours, comme ça. Oui, voilà. Oui, oui. On se fâchait avec lui parce qu'il aimait pas qu'on fasse autre chose.
Ah,
moi,
oui,
je suis parti vers autre chose à ce moment-là. Donc, il a pas supporté.
Ah, voilà. En tout cas, c'est un épisode important de l'histoire de l'avant-garde auquel vous êtes associé.
Très important pour moi, en tous les cas.
Serge Corbert. Très... Et amusant parce que c'est l'avant-garde un peu difficile, extrême, à côté du divertissement, effectivement, des cabarets. Tout ça coexistait apparemment.
Mais tout ça
bien.
Était lié, quand même.
tout ça était lié. Et il y a aussi un autre personnage, alors évidemment, dont vous allez être très proche dans ces années-là, qui vient aussi, si on peut dire, du Cheval d'Or. Mais on va d'abord, tiens, l'écouter pour le plaisir. C'est monsieur Bobby Lapointe.
Mon père est marinier dans cette péniche. Ma mère dit la péniche dans ce marinier. Ma mère est habile, mais ma bile est amère. Car mon père est sévère, ont les pieds fragiles. Avez-vous jamais vu un Monte Cristo et baccarat sur un bateau? Quand père me dit valise, sors le cristal qui est dans la valise, j'ai mal. Je sors une coupe du service pour sa liqueur. Ça nous pousse à quelle heure? Vers 6. À ce moment la mer monte, leur casse les pieds. J'ai pu sans force honte les pieds. Mon père est marinier dans cette péniche. Ma mère dit la péniche dans ce marinier. Ma mère est habile, mais ma bile est amère. Car mon père est sévère, ont les pieds fragiles. Pour ce qui est de l'hygiène, là nous l'avons. Faut bien sur un bateau l'avoir. Quand y a de la julienne, nous l'avalons. Père essuie ses lattos bavoirs. Et puis comme il va boire, sans son bavoir, pour l'empêcher mère père sévère. Et quand père remet ça sur le tapis, son cœur pleure mais sa bouche rit. Mon père est marinier dans cette péniche. Ma mère dit la péniche dans ce marinier. Ma mère est habile mais ma bile est amère. Car mon père est sévère, ont les pieds fragiles. Rugissant par la glotte, félin. Il a tout du félin, félope. Ma mère à son tour gronde, fait dire c'est son saucisson de lion. Alors mon père traite de salami celle qui fut sa mie Rosette. Que voulez-vous de plus qu'on vous serve là? Tout fut dit au boudin. Ah ah, tcha tcha tcha.
Et voilà l'excellent Bobby Lapointe, avec, il faut dire, de merveilleux arrangements, tiens, d'Alain Goraguer, justement.
Bien sûr,
encore
on
lui,
se retrouve.
Encore lui, Serge Corbert. Alors Bobby Lapointe, c'est un autre du Cheval d'Or, et vous êtes, on peut dire, là aussi, un petit peu au tout début de son aventure de chanteur. Hein.
Alors là, mais totalement, parce que c'est moi qui l'ai amené au Cheval d'Or. On se voyait avec Bobby... Place de la Condrecière, à la Chope, on prenait notre petit café là.
Et il faisait quoi à ce moment-là?
Il était prof de maths.
Prof de maths,
voilà. Voilà, le matin, il était prof de maths. Il, début d'après-midi, on se retrouvait là. Et on passait pratiquement l'après-midi ensemble. Il avait son petit cahier, il me lisait les chansons qu'il écrivait et qu'il essayait de placer.
C'était déjà toutes ces chansons basées sur les jeux de mots,
évidemment. Il y avait toutes les chansons qui étaient là, déjà, qui existaient. Il était, je me souviens qu'il était allé voir les frères Jacques, qui avait trouvé ça formidable, mais trop compliqué à chanter.
C'est ça.
Donc ça le rendait un peu triste. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute, viens avec moi au Cheval. Tu vas passer une audition avec Jean-Pierre Suc.
Alors Jean-Pierre Suc, il faut dire, vous évoquiez tout à l'heure ces artistes montés de Montpellier et de Sète.
Tout à fait.
C'était Suc et Serre, c'est ça.
Jean-Pierre Suc, hein. Il y avait Henri Serre, voilà. D'autres, René Biosca, Pierre-François, il y avait des gens qui arrivaient de...
Et Suc était devenu un des patrons, enfin, un des directeurs artistiques.
C'est lui qui dirigeait le Cheval d'Or. Donc, un soir, j'ai amené Bobby... au Cheval d'Or, Jean-Pierre Suc l'a écouté tout de suite. Il dit, c'est magnifique, mais Bobby a dit, mais moi je ne sais pas chanter. Je sais écrire, mais pas chanter. Il dit, tant pis, on essaie. Et donc le soir même, il est monté sur scène. Il a chanté le début d'une chanson, je crois que c'était la Mini de Mélanie. Oui. Le premier couplet, il est sorti de scène et on ne l'a plus revu pendant 15 jours.
Ah bon,
il s'est payé un tel trac qu'il est parti. Après, bon, je l'ai fait revenir. Moi, je l'ai le retrouver à la Chope. Je l'ai fait revenir au Cheval d'Or. Et là, il a commencé à vraiment chanter, quoi.
Et vraiment à connaître le succès.
Et ça commençait à marcher très fort.
Voilà,
oui, parce que Brassens venait au Cheval d'Or et il l'a récupéré à un moment donné et il faisait les premières parties de Georges Brassens.
Vous êtes resté en contact jusqu'à sa disparition précoce.
Jusqu'à sa disparition.
Oui.
Tout à fait.
Alors, le Cheval d'Or, évidemment, c'est un épisode très très important dans votre vie, Serge Corbert, avant le cinéma. Mais il y a aussi un autre lieu, alors beaucoup plus célèbre et beaucoup plus vaste, auquel vous avez été associé dans l'histoire de la chanson, c'est l'Olympia.
Tout à fait. Oui, parce que venait au Cheval d'Or, Jean-Michel Boris.
Disparu récemment, d'ailleurs.
Pas longtemps, qui était le neveu de Bruno Coquatrix. Et qui était directeur de l'Olympia et qui venait au Cheval d'Or justement
rechercher
des nouveaux talents.
Et oui.
Et donc on discutait ensemble, puis un jour il m'a dit « Mais pourquoi tu ne viens pas travailler avec moi à l'Olympia ?» Et je l'ai suivi à l'Olympia.
Alors c'était pareil pour un peu scénographier
Voilà, j'étais un petit peu l'homme à tout faire là-dedans.
Ouais.
Mais c'était une liberté absolument incroyable pour un jeune qui voulait faire de la mise en scène et choses comme ça. Et je me suis retrouvé à l'Olympia à tout faire. Un jour, Jean-Michel Boris me dit « Essaie de trouver une idée pour présenter le spectacle avec Jean-Marie Prolier.
Ouais. »
J'ai trouvé l'idée de faire des projections au début du spectacle. La scène était vide, il y avait une poursuite sur la scène, on entendait dans les coulisses Jean-Marie Prolier en scène, pas de Jean-Marie Prolier, on en voyait le film, et on voyait Jean-Marie Prolier en retard dans la rue, en train de courir.
D'accord. Ah,
C'était déjà du cinéma, et il arrivait dans le hall de l'Olympia,
ouais.
Et là il se faisait engueuler par Bruno Coquatrix, il rentrait dans la salle, on arrêtait le film, il rentrait dans la salle en s'excusant, il montait sur scène. Et là, pendant toute la présentation, il y avait sa conscience professionnelle qui était projetée sur l'écran derrière lui et qui lui donnait la réplique. Voilà, j'ai commencé. En fait, ça a été mon premier film.
Oui, c'est ça.
Mon premier film, ça c'était le spectacle d'Édith Piaf.
Le dernier spectacle d'Édith Piaf.
C'est l'avant-dernier.
J'ai
fait les deux derniers spectacles d'Édith Piaf à l'Olympia.
Et elle, évidemment, vous la regardiez avec
C'était quelqu'un de tellement
admiration.
Exceptionnel et magnifique.
Ouais. Vous étiez là dans la coulisse.
Ça aussi, ça a été une leçon. Oui, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr, j'avais vu comment elle fonctionnait. Quoi. C'était absolument incroyable.
Vous avez vu sa fragilité physique au dernier spectacle
Je l'ai vu portée par un machiniste devant le micro parce qu'elle ne marchait plus. Et lorsque le rideau s'ouvrait, elle commençait à chanter. C'était une merveille parce qu'elle n'avait pas perdu du tout la voix. Quoi. Ouais. C'était magnifique. Les grands personnages que j'ai connus, moi, c'était les incontournables. On ne verra jamais ça sur scène. C'était Piaf, Brel... Et peut-être Johnny Hallyday, la présence sur scène qui était absolument magique, magique.
Alors on va écouter là, ni Piaf, ni Brel, ni Johnny, mais un autre de vos copains peut-être du Cheval d'Or qui faisait aussi ses débuts dans la chanson puis qui est devenu par la suite un des plus grands paroliers de la chanson française. C'est Claude Lemel dans La Demoiselle de Déshonneur.
Elle faisait le trottoir le long de l'église. Y a bien des curés qui prient dans la rue. Elle avait 20 ans de loyaux services, 20 ans de grande vie et de petites vertus. Moi en ce temps-là, j'allais à confesse tous les mercredis à 5h15. J'étais le dernier à parler de fesses. Et si j'y pensais, c'était par hasard. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Ce mercredi-là, j'étais en avance. J'avais déserté le cours de français. Et j'allais me refaire une bonne conscience lorsque j'entendis « Tu viens, mon biquet ?» Un coup d'œil devant, un coup d'œil derrière. J'étais le seul biquet à 100 lieues autour. Alors je suis venu en faisant ma prière. Je voulais faire l'apôtre et j'ai fait l'amour. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Et c'est là, bêtement, dans cette chambre obscure, cette chambre sans joie, sans fleurs au rideau, c'est là que j'ai reçu ma première blessure. Laisser mon enfance au porte-manteau. On peut rêver mieux pour sa grande première, de coucher de soleil ou de chant du guet. Moi je n'ai récolté que trois, notre père, 2 minutes de remords, un zéro de français. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. La 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 la, la 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 la.
Claude Lemel, à la fois donc auteur et interprète ici de la demoiselle de déshonneur. Jolie chanson que vous aimez, Serge Corbert.
Ah oui, j'aime beaucoup et Claude Lemel est toujours mon ami. On se voit très souvent, on échange beaucoup.
Et donc il venait lui aussi au Cheval d'Or.
Il a démarré au Cheval d'Or.
Il a démarré au Cheval d'Or avant de se tourner plutôt vers l'écriture.
Voilà, après il est devenu pratiquement uniquement parolier, oui.
Voilà. Alors vous nous le disiez, Serge Corbert, d'une certaine façon, à l'Olympia, vous avez fait votre premier court-métrage pour Jean-Marie Prolier. Et il y avait quelqu'un qui a vu ce film et qui l'a trouvé très réussi.
Alors Jacques Tati est venu voir forcément le spectacle de Piaf.
Bah oui, bien sûr. Oui.
Et il a vu donc la présentation que j'avais faite avec Jean-Marie Prolier. Et il a demandé à me voir et nous avons monté avec Jacques Tati, ce qui était absolument incroyable. Jour de fête à l'Olympia, avec un système d'écran. Là, on avait fait un écran avec des coupes à l'intérieur, des lames, comme ça.
Ouais.
Et du film, il pouvait sortir de l'écran avec son vélo.
Ah oui ?
Et c'était absolument merveilleux.
C'était à la fois joué et filmé.
Voilà,
donc,
enfin... on projetait le film, jour de fête, et il y avait aussi jour de fête sur scène.
Voilà.
Et il passait de l'écran à la scène.
Lui en facteur.
Voilà. Et ça a été mon premier assistanat avec Jacques Tati, oui.
Parce qu'il faut dire, vous dites votre premier assistanat, Serge Corbert, que alors, dans les années qui suivent, avant de faire les longs-métrages à succès qui vous ont fait connaître du grand public, vous avez fait beaucoup, beaucoup de courts-métrages et vous êtes devenu même une espèce de référence dans le jeune court-métrage couronné par beaucoup de prix. Hein.
Oui, j'ai fait beaucoup, beaucoup. J'en ai fait une dizaine, je crois, qui ont été effectivement primés un peu partout.
Oui. Oui.
Et ça a été une période formidable parce que
C'était pas un genre frustrant le court-métrage, non
pas du tout. Non, c'est quoi ? C'est la nouvelle en littérature.
C'est
quoi,
la nouvelle.
Gros, hein,
voilà,
c'est j'écrivais et je tournais, quoi. C'était formidable. J'avais rencontré toujours au Cheval d'Or François Truffaut qui venait souvent au Cheval avec son ami Claude de Givray. Et un jour, Truffaut, qui avait fait les 400 coups, le film, avait gagné pas mal d'argent et avait produit un film, voulait produire un film à son ami Claude de Givray. Il lui a dit, tu vas faire le remake de Tir au flanc et tu prends tous les gens du Cheval d'Or pour le faire. Effectivement, on s'est retrouvé tous les gens du Cheval d'Or engagés par Truffaut, qui était le producteur du film, et de Givray, le metteur en scène. On s'est retrouvé sur la Côte d'Azur à faire les bidasses dans une espèce de caserne. Et lorsqu'on est arrivé à Mougins, Claude de Givray s'est rendu compte qu'il n'avait pas écrit de scénario. Il n'avait que la pièce de théâtre. Et j'ai travaillé avec lui le soir. J'ai écrit le scénario tous les soirs pour le lendemain. On écrivait
pour le tournage du jour.
Voilà,
quoi.
On écrivait la veille pour le lendemain. Voilà, je suis rentré dans l'équipe de François Truffaut comme ça. Et donc dans la nouvelle vague, quoi.
Ah bah, on peut dire que vous y êtes d'ailleurs dans la nouvelle vague, et tout le monde le sait sans forcément le savoir, Serge Corbert, puisque dans un film mythique, Cléo de 5 à 7, vous êtes un acteur également.
Hein. J'ai fait l'acteur, oui.
Vous étiez vos l'acteur. Copains, Varda et compagnie.
Oui, j'étais très ami avec Varda, toujours, parce que j'allais passer mes vacances à 7 avec les copains du Cheval d'Or.
Oui.
Agnès passait ses vacances là, chez Jean Villard, qui était sétois. Et on s'est tous retrouvés là et on est devenus copains. Et un jour, Agnès a voulu faire son Cléo de 5 à 7. Elle m'a dit, ben voilà, si tu veux, tu viens, j'ai un rôle pour toi. On va s'amuser à faire ce personnage.
Le Plumitif.
Qui s'appelle Plumitif. C'était marrant parce que c'était l'auteur de chansons, quoi.
Voilà. En tout cas, donc, vous avez vraiment été très remarqué comme auteur de court-métrage. D'ailleurs, c'est comme ça que vous avez commencé à travailler, notamment avec votre ami Jean-Loup Trintignant, dont on reparlera tout à l'heure.
Tout à fait.
Mais donc, ce succès vous a conduit naturellement vers le long-métrage. Un premier en 65 qui a marché moyennement.
Qui a eu une presse absolument incroyable,
voilà.
Formidable, puisque ça m'a permis de rentrer chez Gaumont, en signant 3 films à la Gaumont, grâce à ce film qui avait eu une presse...
Et qui s'intitulait...
Qui s'appelait Le 17e ciel.
Le 17e ciel. Et puis, donc, arrive ce premier film des 3 films Gaumont, qui est Un idiot à Paris, avec Jean Lefebvre, Bernard Blier, et qui va vraiment vous rendre célèbre, pour le coup, parce que c'est un grand succès.
Oui, grand succès, une grande révélation. C'était le premier grand rôle de Jean Lefebvre.
Voilà.
Un Bernard Blier complètement délirant, enfin, c'était bien, oui.
Et une chanson écrite pour le film, vous nous direz peut-être tout de suite après, parce que ça vaut la peine quand même, écrite pour vous, pour le film, par Jacques Brel, et qu'il a par ailleurs d'ailleurs enregistrée.
Il y en a qui ont le cœur si large qu'on y entre sans frapper. Il y en a qui ont le cœur si large qu'on n'en voit que la moitié. Y en a qui ont le cœur si frêle qu'on le briserait du doigt. Y en a qui ont le cœur trop frêle pour vivre comme toi et moi. Ils ont plein de fleurs dans les yeux, les yeux à fleurs de peur de manquer l'heure qui conduit à Paris. Y en a qui ont le cœur si tendre qui repose les mésanges. Y en a qui ont le cœur trop tendre, moitié homme et moitié ange. Y en a qui ont le cœur si vaste qu'ils sont toujours en voyage. Y en a qui ont le cœur trop vaste pour se priver de mirages. Sont pleines fleurs dans les yeux à fleurs de peur de manquer l'heure qui conduit à Paris. Y en a qui ont le cœur d'or et ne peuvent que l'offrir le cœur. Tellement dehors qu'ils sont tous à s'en servir. Celui-là a le cœur dehors et si frêle et si tendre que maudits soient les arbres morts qui ne pourraient point l'entendre. À pleine fleur dans les yeux à fleurs de peur de manquer l'heure qui conduit à Paris.
Jacques Brel, Les cœurs tendres pour Un idiot à Paris, film de Serge Corbert, qui est aujourd'hui mon invité, film de 1967. Jacques Brel, c'était pas une rencontre du Cheval d'Or, lui il était pas habitué de la maison.
Non, Serge Corbert. C'était une rencontre après, lorsque le spectacle du Cheval d'Or se terminait, on faisait les autres cabarets. On passait à l'Écluse, on passait à l'Échelle de Jacob pour écouter les copains, on allait retrouver Barbara à l'Écluse. Et Brel à l'échelle de Jacob. Et bon, j'ai vu comme ça. Et puis on est devenu copains avec Jacques. C'était un personnage étonnant, hein. Enfin, magnifique. On avait beaucoup d'atomes crochus avec lui. On devait même faire un film à un moment donné sur. On voulait faire absolument une comédie musicale ensemble. qui s'appelait Rosa, un roman de Maurice Pons,
ah oui,
qui était sublime, magnifique. Et puis on n'a pas réussi à monter ça. C'était un peu compliqué à l'époque parce qu'on montait difficilement les comédies musicales.
Il vous a fait une chanson sur mesure, c'est déjà pas
et
mal.
Par contre, bon, quand j'ai eu fait Un idiot à Paris, je lui ai dit, écoute, j'ai terminé mon film, c'est un premier montage, si tu veux venir le voir. Il est venu, il a adoré, et il m'a dit, mais si tu veux, je t'écris une chanson, ça me plairait bien. Et j'ai dit, mais écoute, formidable, oui. Et il faisait sa tournée d'adieu autour de Paris. Et il m'a dit, tu viens une fois par semaine me voir
sur scène,
à Juvisy, à machin, à truc, et à la fin, je te fais écouter un couplet.
Ah.
Et donc, il y avait 4 couplets dans la chanson, j'ai fait les spectacles avec lui, et à la fin du spectacle, il me chantait un couplet.
Voilà, c'était donc Un idiot à Paris avec, on l'a dit, Jean Lefebvre, mais aussi Dany Carrel et Bernard Blier, qui avait une réputation d'être difficile quand même comme personnage.
Ah oui, c'est tout à fait bien entendu avec Bernard.
Ah bon,
mais moi, j'ai eu toujours
oui,
des acteurs très difficiles, comme De Funès.
Ben, on va y venir, justement.
Et ça a été le rêve à chaque fois.
De Funès, vous aviez une bonne raison de ne pas travailler avec lui, c'est que vous étiez lié avec le milieu de la Nouvelle Vague, où on regardait quand même ce cinéma commercial avec le plus grand
tout
dédain.
À fait, tout à
et Truffaut
fait.
Vous a dit, mais ne tourne pas avec ce type, c'est ça à peu près?
Oui, c'était vraiment un scandale, quoi, le fait de me rabaisser à faire un film avec
Louis
de Funès.
De Funès qui avait adoré Un idiot à Paris.
Hein. Il avait adoré Un idiot à Paris, il avait demandé à Gaumont, Alain Poiret, un rendez-vous avec moi. Donc je suis allé le voir sur le plateau d'Hibernatus. Et tout de suite, Molinaro, qui était le metteur en scène, est venu vers moi avant mon rendez-vous avec Louis de Funès. Et il m'a dit, ne travaille pas avec ce type, il va te rendre fou. Il insulte les metteurs en scène, il les écoute pas. Et j'ai eu mon rendez-vous avec Louis de Funès, forcément j'en menais pas large. Et ça a été un coup de foudre, on s'est entendu, parce que lui aussi venait du cabaret.
Et ben voilà.
Et on avait le même parcours.
Il faut rappeler qu'il avait été pianiste de bar.
Absolument.
Hein. Il gagnait sa vie comme ça à ses débuts.
Et puis il a fait tous les cabarets, les branquignoles et tout ça, et on s'est entendu... mais merveilleusement bien, c'est devenu
un ami. Vous êtes
allé
dans son château?
Je suis un des rares metteurs en scène à être allé dans le château, rester 15 jours en famille, et ça a été absolument formidable.
Et alors, vous avez fait donc ensemble d'abord L'Homme Orchestre, dont on peut dire que c'est finalement sans doute la seule qui est tournée de Funès, c'est une comédie musicale.
C'est
quasiment.
Une comédie musicale, moi je pourrais même... C'est drôle parce que c'est une comédie dadaïste, L'Homme Orchestre, c'est un truc complètement fou, quoi. Louis a accepté, parce que Louis était très très intelligent, on ne le voit pas comme ça, mais c'était quelqu'un... d'une part intuitif, très intelligent, très fin, et qui est parti là-dedans, mais à 1000 à l'heure, quoi.
Avec toute son énergie.
Ah oui.
Et avec la complicité d'un musicien qui était François de Roubaix. Hein.
Voilà, François de Roubaix, que j'avais rencontré sur une série de télévision que Gaumont m'avait demandé de faire avec Gilles Grangier à l'époque, qui s'appelait Les Enquêteurs Associés, et de Roubaix faisait la musique de ça. Voilà. Et puis, bon, c'était un merveilleux musicien. On s'est dit, on va faire ça ensemble, on va faire cette comédie. On va s'éclater là-dessus, ça va être formidable. Et effectivement, on s'est énormément amusé. Même de Funès, lorsqu'on répétait les musiques chez de Roubaix, de Funès venait, on faisait des bœufs.
Des bœufs avec de Funès au piano.
Oui, ah, oui, mal. Oui, et c'était formidable. C'est dommage qu'on a...
Son fils à la batterie, Olivier.
Olivier était à la batterie. Olivier, que je vois toujours, qui est devenu un ami. Nous avons écrit un scénario ensemble. Lui aussi, il a une vraie folie et il écrit merveilleusement bien.
Et puis de Roubaix, qui lui était un musicien surdoué, qui jouait un peu de tout. Hein.
Il jouait tous les instruments.
Voilà. Et d'ailleurs, on va entendre beaucoup d'instruments dans ce petit montage qu'on a fait avec, alors d'abord, la chanson justement de Funès père et fils qui s'appelle Les Poupons dans le film, qui est une des rares chansons de Funès au cinéma. C'est amusant de l'entendre comme ça, même s'il a déjà une voix de vieux monsieur, mais il est en duo avec son fils. Et puis, tout de suite après la répétition, on entend un peu de Funès qui mène la danse de toutes ces jeunes filles dans les ballets, très, très chorégraphiés hein, du film L'Homme Orchestre.
Ça, c'était la suite de l'Olympia.
Voilà.
Et de mes rencontres de chorégraphes, de bons chorégraphes de l'Olympia, oui.
Thank you. tu fais la 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 la, pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est sérieux, la vie.
Elles étaient si belles que je n'ai pas pu résister. Je voyais en elles la beauté.
Quand tu fais la 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 la, pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est grave, la vie.
Et moi, dans leur cœur, je retrouvais la vérité. Comment, en plein bonheur, me raisonner.
L'homme orchestre, voilà, avec Louis de Funès, un film de Serge Corbert qui est mon invité aujourd'hui, un film de 1970, un grand succès, pas seulement français d'ailleurs. Hein. En France, il y a eu de Funès qui ont mieux marché, mais alors, par exemple, j'ai vu des pays comme la Russie, ce pays a fait...
Ça a été incroyable, a fait 33 millions d'entrées.
33
en
millions d'entrées.
Incroyable.
Dommage que ça ne rapportait pas beaucoup les roubles à l'époque.
Non. Mais quand je suis allé après en Russie, avec où j'accompagnais Michel Legrand, j'étais reçu peut-être même mieux que Michel Legrand.
Comme auteur de l'homme orchestre.
Mais oui, absolument, oui.
C'est drôle.
On m'appelait Petit Pas là-bas, en Russie.
Ah bah, juste ce qu'on vient d'entendre, Petit Pas,
voilà.
Justement. De Funès, visiblement, était en tout cas très content, puisqu'il a voulu enchaîner tout de suite avec un autre film que vous avez fait ensemble, Sur un arbre perché, qui était à l'origine destiné à Yves Montand, d'ailleurs.
Oui, absolument. C'est normalement un film dramatique qu'on devait faire. Et quand je lui ai raconté l'histoire, il m'a dit « mais c'est moi qui dois faire ça ». C'est devenu un film complètement surréaliste avec De Funès. Parce que enfermé dans une voiture, c'est quand même...
Avec son fils toujours d'ailleurs. Hein.
Avec son fils, Géraldine Chaplin. Moi je voulais avoir Shirley MacLaine qui avait accepté de faire le film. Et malheureusement, on devait décaler parce qu'elle était prise sur un autre film et Louis ne pouvait pas décaler le film qu'il devait faire après. Donc malheureusement, on n'a pas pu. Mais bon, on a pris... Géraldine était très bien dans le film, il n'y a pas eu de problème. Mais tout de même, ce n'était pas vraiment un film pour lui, c'était une pièce de Beckett.
Oui, exactement.
Ces trois personnages dans une voiture.
Ouais. Sur un arbre, en plus.
Sur un arbre, je veux dire, il n'y a pas moyen de bouger. Ni rien. Mais bon, ça a été aussi une expérience formidable.
Ça s'est enchaîné avec d'autres films, notamment avec Girardot et Fresson, donc Les Feux de la Chandeleur et Ursule et Grelu, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a eu encore Je vous ferai aimer la vie.
Oui.
Vous vous êtes aventuré aussi parfois vers des films un peu plus lestes, avec une certaine Brigitte Lahaye.
Oui, bon, c'était La Récréation.
La Récréation ou Un défi avec vos copains de la Nouvelle Vague.
Ça a été un peu un pari stupide avec Truffaut et Chabrol, oui.
Voilà, et puis beaucoup de films de télévision qui ont suivi même énormément de films de télévision et beaucoup de comédies pour la télévision. Hein.
Oui, 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 mais c'était très plaisant à faire ça parce que il n'y a pas l'angoisse du cinéma de savoir si les gens vont venir en salle ou quoi. Ils sont déjà là devant leurs écrans. Donc c'était amusant de faire ça, de faire des comédies pour la télévision. J'en ai fait beaucoup, hein, j'ai dû en faire une trentaine.
Avec des acteurs fétiches un peu. Hein,
Oui, 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 j'ai fait beaucoup de choses avec Jean-Luc Moreau, Dufilho, Wilson, George Wilson. On a fait beaucoup de choses comme ça, avec des acteurs que j'adorais. Donc ça a bien fonctionné, quoi.
Alors, pour revenir un petit peu à la musique, Serge Corbert, je voudrais revenir justement à ces deux films, Les Feux de la Chandeleur et Je vous ferai aimer la vie, qui sont deux films avec aussi Michel Legrand, notre grand et cher Michel Legrand, que vous aviez connu lui aussi dans votre période Nouvelle Vague, si j'ose dire.
Je l'ai connu sur Cléo de 5 à 7, parce que lui faisait le musicien sur Cléo, et moi le parolier des chansons. Et on s'est plus quitté pratiquement avec Michel, on est resté amis depuis et on a bouclé la boucle ensemble parce que après j'ai fait la mise en scène de ses concerts au Châtelet, au Palais des Congrès, je lui faisais la mise en scène. Donc on s'est pas quitté jusqu'à sa disparition, quoi.
Et on va peut-être écouter un extrait des Feux de la Chandeleur. C'est un beau film, hein ?
Oui, très beau.
On peut le dire devant, en présence du réalisateur.
Mais on peut le dire.
Avec donc la musique de Michel Legrand. Les Feux de la Chandeleur, on a reconnu évidemment l'art de Michel Legrand ici en 1972 dans un film de mon invité Serge Corbert. Michel Legrand qui a été vraiment un de vos grands partenaires avec François de Roubaix ou Alain Goraguer qu'on évoquait tout à l'heure, qui lui est toujours parmi nous, que vous voyez toujours peut-être,
Serge Corbert. Tout le temps, on se téléphone presque tous les jours avec Alain.
Avec Alain,
ah bon. Il est toujours là, oui.
Merveilleux. Et puis on aurait pu citer aussi Georges Delerue qui a été associé à un de vos films, La Petite Vertu.
Oui, Delerue aussi, c'était un merveilleux compositeur. Oui, il a fait avec moi un film policier qui s'appelait La Petite Vertu.
Et donc, aujourd'hui, et depuis quelques années, vous êtes aussi devenu un peu un historien du cinéma, si j'ose dire, mais par le cinéma, par le documentaire. Hein. Vous avez consacré des très beaux documentaires, à, notamment, par exemple, Jean Gabin ou encore Louis de Funès.
Tout à fait.
Vous aimez ce travail aussi, au fond, d'archiviste de l'histoire du 7e art, Serge Corbert?
Oui, ça m'amuse beaucoup, ça, parce que c'est mes souvenirs, quoi. Ouais. Donc, c'est plus facile. C'est plus facile, je peux raconter ces histoires.
Et oui, vous avez connu de l'intérieur.
Parce que
j'ai connu
tous ces gens.
Oui.
Il y a eu aussi Maurice Béjart, avec qui je suis resté pratiquement une année. Et je l'ai filmé un peu partout, on a pratiquement fait le tour du monde ensemble. J'ai suivi la troupe et on a fait un joli film ensemble avec Maurice.
Et puis ce documentaire sur Oberfeld, alors que je suis impatient de découvrir dès qu'il sera terminé.
Absolument,
voilà.
Absolument.
Oui, et aujourd'hui, vous êtes là venu aussi encore avec un livre, alors que vous avez co-écrit un livre sur Jean-Louis Trintignant, Dialogue entre amis, parce que Trintignant, je le disais tout à l'heure, vous l'avez rencontré à l'époque de vos premiers courts-métrages et c'était aussi un ami de toujours.
Absolument, depuis les années 60.
C'était quoi votre premier film ensemble?
Un court-métrage qui s'appelait Un jour à Paris. Nous avons fait tout de suite après le long métrage, Le 17e ciel, avec la merveilleuse Marie Dubois.
Voilà. Et c'est resté donc un ami proche, Jean-Louis?
Oui, toujours. On est resté amis depuis les années 60 jusqu'à maintenant, oui.
Et ce livre alors?
C'est un geste d'amitié. J'avais déjà fait un documentaire sur lui il y a quelques années. Et c'est bon, c'est la continuité, quoi.
Avec des photos magnifiques. Hein.
Ça s'est terminé par ce livre que nous avons adoré faire, oui.
Magnifiquement illustré par de très nombreuses photos.
Et c'est vraiment un dialogue
entre
amis.
Et un dialogue.
Nous avons interviewé beaucoup de ses amis, acteurs, producteurs. Et ça, c'est vraiment un dialogue entre amis. Quoi.
Voilà. Et je crois qu'il y a un musicien aussi qui vous rapproche, Jean-Louis Trintignant et vous, un chanteur malheureusement disparu trop tôt, Serge Corbert.
Ah, Alain Leprest.
Oui.
C'est moi qui l'ai fait connaître à Jean-Louis Trintignant. Je trouvais que c'était vraiment un poète admirable. À mon avis, un des plus grands paroliers de chansons français. Malheureusement, un petit peu oublié et ça n'a pas vraiment accroché de son vivant. Mais voilà, quoi, pour moi, et pour Jean-Louis maintenant, c'est un des grands poètes du XXe siècle.
Alors on pourrait se quitter avec lui ce matin, peut-être,
Serge Corbert. Avec grand plaisir.
Voilà, une chanson d'ailleurs que vous m'avez fait découvrir, Il pleut sur la mer, c'est magnifique. Hein.
Ouais.
C'est assez drôle en même temps, sous un air
mélancolique. Oui, il n'a pas écrit beaucoup de chansons humoristiques, mais celle-là, elle est formidable et superbe, quoi, superbe.
Et merci en tout cas d'être venu retracer avec nous ce parcours d'une richesse fabuleuse qui a été le vôtre et qui n'est pas terminé,
Serge
Corbert. À bientôt.
À bientôt.
Il pleut sur la mer, c'est bien inutile. Ça mouille la pluie, c'est du temps perdu. Les mouettes s'ennuient, blottis sous les tuiles. Il tombe des cordes et l'eau s'est pendue. Aux plus hautes branches de la Manche, il pleut sur la mer et ça sert à rien, à rien et à rien. Mais quoi sert à quoi? Les cieux, c'est leur droit d'avoir du chagrin. Des nuages indiens vident leur carquois. C'est l'été que manche sur la Manche. Il pleut sur la mer, l'eau, quel imbécile. À croire que la mer se pisse dessus, s'aborde ses ports, ses cargos, ses îles. À l'air d'un moineau, sous mon pardessus, d'une corneille blanche sur la Manche. Il pleut sur la mer, ça nous ressemble. De l'eau dans de l'eau, c'est nous tout cachés. Et nos yeux fondus au cœur de septembre regardent rouler des larmes gâchées. Curieuse avalanche sur la Manche. Il pleut sur la mer, c'est con comme la pluie. Peut-être c'est nous qui sommes à l'envers. L'amour a des nœuds, place à mise en pli. Ça nous fait marrer, il pleut sur la mer. Aujourd'hui, dimanche, sur la Manche.
Il pleut sur la mer par Alain Leprest, un choix de mon invité aujourd'hui, le réalisateur Serge Corbert. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cet entretien sur francemusique.fr. Et puis je vous recommande donc le livre qui vient de paraître, Jean-Louis Trintignant, Dialogue entre amis, avec Serge Corbert et Jean-Yves Catelan, un livre qui vient de paraître aux éditions de La Martinière. Et voilà un beau morceau de musique légère, extrait d'une des anthologies de notre cher Serge Elaïc. Ça s'intitule Winter Wonderland, et oui, nous sommes encore en hiver. Et c'était l'orchestre New York Philharmonic avec Skitch Henderson.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis chaque semaine, nous commémorons la disparition il y a 50 ans du grand Fernandel. Et tiens, justement, puisqu'on a beaucoup évoqué ce matin Casimir Oberfeld, compositeur et proche ami de Fernandel, j'ai choisi cette chanson qui est leur dernière chanson commune avant, malheureusement, la déportation d'Oberfeld. C'était en 1941 qu'ils ont enregistré cette chanson sur des paroles de Guy de Palsener, chanson enregistrée à Marseille et dans laquelle, eh bien, on évoque un petit peu, malgré tout, les difficultés de cette époque de l'occupation. Ça n'est pas d'ailleurs sans rappeler un peu les jours sombres que nous vivons. Ça s'appelle les jours sans, chanté avec humour, mais aussi avec un brin de mélancolie.
Nous avions dans le temps des jours gras, des jours maigres, des jours ensoleillés, des jours pluvieux ou secs. Maintenant, à date fixe, pour parler petit nègre, nous avons des jours sans ou bien des jours avec. Les jours sans, on le sait, sur les autres dominent. Il y a les jours sans bonbons, les jours sans cervelas, les jours sans pâtisserie comme les jours sans fine. Y'a que les jours sans facture que nous ne connaissons pas. Quand il manque ce qui manque, on se console en disant c'est un jour sans. Parmi tous les jours sans, il en est, c'est dommage, où rien ne réussit car tout vous fait défaut. Vous vous levez le matin, vous êtes sans courage. Comme il a gelé la nuit, zut, c'est un jour sans eau. Vous partez au bureau sans faire votre toilette. Vous avez bien envie de prendre un petit déjeuner, mais c'est la fin du mois, c'est un jour sans galette. Vous déjeunez par cœur et vous vous raisonnez. Oh, de toute façon, que vous dites, j'aurais pas eu de croissant. C'est un jour sans. Avec une fille charmante, une amie de rencontre, vous avez rendez-vous, vous l'attendez en vain. Puis au bout de 3 heures, en consultant votre montre, vous dites jour sans volaille, mais pas jour sans lapin. Enfin, elle s'amène, froufroutante et jolie, pour vous dire, mon chéri, je peux pas rester ce soir. Un baiser sur le coin de l'œil et la voix la partie, tandis que l'orchestre joue sérénade sans espoir. Tant pis si vous aviez des élans frémissants. Un jour sans. Vous allez dîner seul, vous êtes triste et morose, et vous vous dirigez vers un restaurant bien. Mais comme il est très tard, il ne reste plus grand chose, d'autant plus que plus tôt, il n'y avait déjà plus rien. Tout en lisant le menu afin de passer commande, vous jetez votre voisine, elle est maigre comme un rat. Alors le garçon vous dit, c'est que c'est un jour sans viande. Maintenant, il n'y a plus que la peau, vous voyez, il n'y en a pas gras. Oh, j'ai bien vu que vous faites, c'est pas appétissant. Jour sans. Et jour sans malgré tout, et là je suis sincère, nous les supportons bien et fermons notre bec. Car pour nous compenser de nos petites misères, nous avons heureusement par mois 30 jours avec. Ce sont les heureux jours, mesdames, il faut le dire, que vous nous faites passer grâce à votre beauté. Car tant que nous aurons la joie de vos sourires, les jours sans espérance, nous pourrons les compter. Là-dessus, si vos bravos sont pas retentissants, tant pis, c'est un jour sans.
Eh ben oui, ça va faire un an qu'il dure notre jour sans. Enfin voilà, quand c'est dit avec tout l'art de Deezer, de Fernandel, c'est beaucoup mieux. Et puis aussi avec la musique de Casimir Oberfeld, déjà à l'honneur les 2 semaines passées dans l'opérette Le Rosier de Madame Husson, ou encore dans la chanson C'est comme ça à Calcutta. Restons dans le registre de l'humour musical. J'ai ressorti pour vous ce petit chef-d'œuvre de l'américain Spike Jonze dans une parodie, un pastiche de la rhapsodie hongroise célèbre de Liszt.
Ah, Petrushka, darling, let us drink to your beautiful hair.
Yes, Igor.
Petrushka, let us drink to your gorgeous eyes.
Yes, Igor.
Ah, Petrushka, let us drink to your beautiful ruby red lips.
Yes, Igor.
Petrushka, let us drink to your...
Yes, Igor, Vivor.
Oh,
Rhapsody from Hungary, donc Franz Liszt, revu par Spike Jonze et son orchestre en 1949. Stürmisch in Liebe und Tanz, agité dans l'amour et dans la danse, un galop de Johann Strauss fils par l'orchestre de l'Opéra d'État de Vienne sous la direction d'Anton Paulik. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique YouTube Diego Aclopès, avec également Emmanuel Rose, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, j'aurai le plaisir d'accueillir le chanteur Frédéric François.
À réécouter sur francemusique.fr.